tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
Imaginez-vous, vous êtes seul dans l'obscurité. Dans votre combinaison, vous n'entendez aucun son. Tout est silencieux. Vous pourriez être au fond de l'océan ou au milieu de l'espace que vous ne vous en rendriez même pas compte. Pour mieux y voir, vous décidez d'éteindre cette petite ampoule qui vous indiquait jusqu'à présent que vous êtes égaré. En l'éteignant, vous donnez une chance à vos yeux de s'accommoder à cette pénombre qui vous entoure, et vous vous donnez une chance, à vous, d'y voir plus clair. La lumière s'éteint. Vos yeux s'accommodent et au loin, un point bleu apparaît. Bienvenue Spoutnikterien, à bord de votre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs du système solaire d'un bleu profond, nappé de mystères qui le sont tout autant, vers le domaine d'un dieu qui jadis accabla Ulysse de tous les maux pendant son odyssée. Alors, Spoutnikterienne, Spoutnikterien, empoignez donc votre trident et sortez vos coupe-vents, car c'est aujourd'hui Neptune qui est à notre une. Nous sommes au début de l'année 1840. À l'époque, Uranus est la dernière planète du système solaire qui en compte donc 7. Pour faciliter les observations des astronomes, il existe de grands tableaux dans lesquels on note la position à laquelle est censée se trouver la planète à une date particulière. Le hic, c'est que ces prédictions sont imprécises. Attention, attention, elles sont loin d'être fausses, mais pêche ça et là, et la planète est parfois à quelques degrés de la position prédite. Cambridge, 1843. John Coffadham a 25 ans et sort diplômé de la prestigieuse université de l'Est de l'Angleterre. Il se met en tête de résoudre le problème d'imprécision de l'orbite d'Uranus, en se basant sur une hypothèse du français Alexis Bouvard, selon laquelle un corps inconnu perturberait l'orbite d'Uranus et serait à la source des imprécisions. John se met donc au travail et cherche à déterminer la position de cet hypothétique perturbateur. C'est une tâche qui lui prendra 2 ans, mais au bout desquels, il tient les coordonnées de l'objet qu'il convoite. Le problème, c'est que John ne dispose pas de puissant télescope pour vérifier sa théorie par l'observation. Un problème aussitôt résolu par le directeur de l'observatoire de Cambridge, James Shelley, qui l'envoie requérir l'assistance de Sir John Harry, un réputé astronome royal pour qui cette observation ne devrait pas poser de problème. John va donc voir Sir Harry, mais tout ne se passe pas comme prévu. Harry doute. Oui, il doute. Il doute d'abord du jeune homme, mais également de sa théorie. Harry est en effet partisan d'une théorie opposée à celle de John, qui suppose qu'aucune planète n'est à l'origine des perturbations sur l'orbite d'Uranus. Non. Pour Harry, le souci vient de la théorie de la gravitation, qui aurait tendance à flancher à mesure que l'on s'éloigne du Soleil. Harry refuse donc d'aider John, qui s'en trouve donc particulièrement embarrassé. Paris, 1845. De l'autre côté de la Manche, François Arago est directeur de l'Observatoire de la capitale française. Face aux questionnements qui entourent le positionnement d'Uranus, il encourage le mathématicien Urbain Le Verrier à travailler sur la question, en se basant, lui aussi, sur l'hypothèse de la planète supplémentaire. Le Verrier se met donc au travail, en ignorant tout des travaux menés par son jeune collègue outre-Manche. Moins d'un an après le début de ses travaux, il publie, en novembre 1845, un premier mémoire sur ses recherches, complété par un second en juin 1846. Outre-Manche, Sir Harry, qui a refusé d'assister John Adams pour confirmer ses calculs, entend parler des travaux d'Urbain Le Verrier, et fait ainsi le rapprochement avec ceux de son jeune collègue. Harry contacte Le Verrier, qui lui demande de vérifier par l'observation sa théorie. Mais Le Verrier, comme John Adams, fait face au refus de Sir Harry. Le Verrier ne baisse pas les bras face au refus du chevalier de Sa Majesté, mais aussi face au flegme de la communauté scientifique européenne. Il se tourne alors vers le Prussien Johann Gottfried Gall, une connaissance qui est astronome à Berlin. Ce dernier accepte de l'aider et reçoit en septembre 1846 les coordonnées prédites par Le Verrier qui lui permettent dès le lendemain de mettre la main sur la planète recherchée. Pendant ce temps-là, au royaume de la reine Victoria, c'est un peu la douche froide, enfin plus que d'habitude. John Adams avait en effet réussi à convaincre James Shelley d'effectuer des observations, mais ce dernier n'avait rien trouvé de concluant. À l'annonce de la découverte franco-prussienne, Shelley replonge dans ses comptes rendus d'observation pour se rendre compte qu'il avait bel et bien observé la désormais 8e planète du système solaire sans l'avoir remarqué, alors que la position prédite par John Adams était tout à fait correcte. S'ensuit alors un débat sur la paternité de la découverte, qui verra finalement John Adams partiellement évincé malgré l'exactitude de ses calculs, car il n'est pas parvenu, contrairement à Urbain Le Verrier, à convaincre ses pairs de confirmer ses calculs par l'observation. Évidemment, il y a eu aussi un débat autour du nom de la planète découverte. Au début simplement désignée par « planète extérieure à Uranus », la nomination de la planète devient rapidement une sorte de foire à la saucisse. Johann Gall, le Prussien à l'origine de l'observation, propose Janus, du nom du dieu du commencement et de la fin. James Shelley propose Océanus, nom grec équivalent d'Uranus. Le Verrier, lui, propose Neptune, nom romain du dieu Poséidon, puis carrément Planète Le Verrier, son melon ayant probablement atteint la taille de la planète découverte. Bon, évidemment, la dernière proposition n'emballe pas vraiment les foules en dehors des frontières de l'Hexagone, et Neptune fait finalement consensus comme respectant la nomenclature déjà utilisée pour les autres planètes et étant à l'origine proposée par son découvreur. Après un passage mouvementé autour de la Lune, il est agréable de pouvoir se poser et observer les merveilles qui nous entourent. Dans la catégorie « Je suis énorme, stylé et bleu hypnotique » et pourtant personne ne me connaît vraiment, voici Neptune, la reine des profondeurs du système solaire. Elle couronne la liste des 4 planètes géantes avec Jupiter, Saturne et Uranus. Mais comme cette dernière, Neptune appartient à une sous-catégorie de géantes, les géantes de glace. Uranus et Neptune sont toutes deux plus petites que leurs voisines directes, plus grandes mais aussi plus massives. Jupiter est ainsi 19 fois plus massive et 3 fois plus grande que Neptune. Cela n'empêche pas la géante de mériter son nom, puisqu'avec un diamètre de 50 000 km, Neptune est 17 fois plus massive que la Terre et 4 fois plus large. Neptune est aussi loin, vraiment très très loin, puisqu'elle est à 30 unités astronomiques en moyenne du Soleil. Si vous deviez y aller en ligne droite depuis la Terre à raison de 130 km par heure, il vous faudrait pas moins de 3940 années pour vous y rendre. Autrement dit, un Égyptien antique ayant travaillé à la construction des grandes pyramides de Gizeh et parti directement après l'ouvrage terminé serait arrivé, mais vraiment pas depuis longtemps. Bon, toutes ces informations sont intéressantes mais s'obtiennent par de simples observations depuis la Terre. Pour percer les secrets de la belle géante bleue avec option nuage de crème, il faut un outil plus percutant. Un magnétomètre de 13 mètres de long, une antenne parabolique de 3,7 mètres de diamètre, deux antennes radio de 10 mètres chacune, 11 instruments, 450 watts de science alimentés par 3 piles nucléaires, voici Voyager 2, icône de l'exploration spatiale et symbole de robustesse technologique par excellence. Nous sommes à l'abord de Neptune, nous sommes le 25 août 1989. L'intrépide sonde du Jet Propulsion Laboratory est en vue de la 8e planète du système solaire. La sonde n'en est pas à son coup d'essai. Neptune est alors pour Voyager 2 la 4e étape d'un grand tour incroyable. La sonde profite littéralement d'un alignement de planètes, ou plutôt d'une configuration orbitale particulièrement avantageuse et qui lui permet de survoler Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en un seul vol et avec un minimum de carburant. Une config aussi improbable qu'incroyable et qui se reproduit une fois tous les 176 ans. Comme pour New Horizons dans le cas de Pluton, la sonde passe aux abords de Neptune mais ne s'arrête pas faute de carburant. Elle frôle la géante à 5000 km de son pôle nord et a tout juste le temps de prendre quelques clichés et de braquer tous ses instruments vers la planète et ses lunes alentour. Et elle s'en va. Le passage de Voyager 2, aussi fugace qu'intense, a cependant permis d'obtenir les premières vues rapprochées de la dernière géante du système solaire, et aussi d'en apprendre plus sur elle. Déjà, première nouvelle, Neptune est plus légère que prévu, de 0,5%. Si cela peut paraître peu, rappelez-vous de notre passage vers Pluton. Percival Lowell avait découvert la petite planète naine sur l'hypothèse qu'elle était la cause de perturbations sur l'orbite de Neptune. Exactement comme Neptune a été découverte à cause des perturbations sur l'orbite d'Uranus. Or, cette fois-ci, c'était l'estimation de la masse de Neptune qui causait ces petites perturbations, et Voyager 2 permet ainsi de réfuter, pour de bon, la théorie de la planète X influençant les orbites des deux géantes de glace. Voyager 2 a aussi pu mettre en évidence la rotation de la planète qui tourne sur elle-même en seulement 16 heures. Cependant, sur Neptune, cette durée de la journée n'est pas valable sur l'ensemble de la planète, qui est soumise à un phénomène de rotation différentielle. En clair, ce que ça veut dire, c'est que la planète ne tourne pas à la même vitesse en fonction de la latitude sur laquelle on se trouve. Au niveau de l'équateur, une journée durera 18 heures, alors qu'elle ne durera que 12 heures au niveau des pôles. Un phénomène pas vraiment pratique pour mettre ses pendules à l'heure en se posant à la surface. Mais pas d'inquiétude, car vous n'aurez pas besoin de vous poser à la surface, car il n'y en a tout simplement pas. La rotation différentielle est en effet typique des planètes ou en général des corps qui ne sont pas solides. Jupiter et Saturne, par exemple, subissent les mêmes phénomènes, même s'il est particulièrement marqué sur Neptune. Si la géante de glace vous déçoit par son absence de surface, on peut raisonnablement penser qu'elle a un cœur de pierre bien entouré par une épaisse atmosphère. Mais là encore, pas la peine de vouloir y poser le pied, car avec une pression de 8 millions d'atmosphères et une température de 7800 degrés Celsius, vous ne seriez en mesure de déambuler qu'avec des molécules désassemblées. Pour faire redescendre la pression, vous pourriez alors remonter une épaisse couche mélangeant de l'hélium, de l'hydrogène et du méthane, puis une autre mélangeant de l'eau, du méthane et de l'ammoniac. Alors, à l'affleurement de l'espace, vous finiriez par trouver une pression qui vous sied, celle équivalent à la pression sur Terre, mais vous n'auriez nulle part où poser le pied, et quand bien même vous oseriez sortir de votre capsule, les nuages d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène, ainsi que la température de moins de 100 degrés, vous le feriez amèrement regretter. Ce bruit que vous entendez, c'est celui de l'atmosphère qui chatouille joyeusement la carlingue de notre vaisseau et qui va nous emporter pour une joyeuse et turbulente balade. Alors, bouclez vos ceintures parce que ça risque de secouer un poil. Neptune est en effet le siège de phénomènes climatiques violents. Et c'est peu dire qu'il y aurait de quoi décorner une capsule ou deux, car avec des vents dont la vitesse dépasse les 200 km par heure, Neptune détient le record de la planète la plus éventée de tout le système solaire. Je crois qu'on va rentrer nos antennes pour éviter tout problème. À vent exceptionnel s'accordent naturellement tempêtes exceptionnelles. A l'instar de Jupiter et de sa célèbre grande tache rouge, Neptune possède occasionnellement une ou plusieurs grandes taches sombres, des anticyclones gigantesques pouvant couvrir une surface de 13 000 par 7 000 km, de quoi recouvrir une bonne partie de l'océan Atlantique. Et comment traverser ces couches atmosphériques sans parler de ce bleu presque féerique, essentiellement dû au méthane présent dans l'atmosphère? Mais le méthane ne vous donnera pas la clé pour percer le secret de ce bleu profond, et d'autres éléments chimiques pas encore identifiés conservent jalousement le secret d'une recette décidément bien cachée. Allez, je nous sors de l'atmosphère et je vous invite à nous diriger vers la baie d'observation, car il va nous falloir une bonne surface pour pouvoir observer notre prochaine destination. Et voilà, on sort des turbulences atmosphériques pour faire face à un système d'anneaux presque oniriques couronnant la géante des mers. Non ? Nous n'avons pas changé de planète. Nous ne sommes pas en orbite autour de Saturne et les reflets bleus de la planète qui se trouve maintenant dans notre dos nous le rappellent assez bien. Ici, les anneaux se font plus discrets, plus fins et plus légers. Tellement d'ailleurs qu'on ne les a pas complètement identifiés avant le passage de Voyager 2. Les anneaux sont fins, sombres et probablement de couleur rougeâtre. Ils sont au nombre de 5 et portent des noms que vous reconnaîtrez probablement. Il y a Gall, Le Verrier, Lessel, Arago et Adams. Les noms des personnes ayant contribué à la découverte de Neptune. L'anneau Adams, du nom du malheureux calculateur oublié, est intéressant à plus d'un titre. En effet, il n'est pas uniforme et présente des parties plus brillantes que d'autres. Ces parties plus brillantes sont appelées des arcs. Ces arcs ont été mis en évidence par André Braik, célèbre astrophysicien français et grand vulgarisateur décédé en 2016. Braik profite de sa découverte pour pousser un petit cocorico des familles à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française en 1989, en nommant les trois arcs découverts, Liberté, Égalité, Fraternité, complété plus tard par un quatrième arc nommé Courage. Bon, pas de bol, en 2009, la Liberté et le Courage ont mis les voiles et Égalité s'est divisée en deux arcs, donnant naissance à Égalité 1 et 2. J'ai pris la peine d'installer un poste de pilotage auxiliaire dans la baie d'observation, l'occasion de pouvoir nous emmener faire un tour vers une des lunes en orbite autour de Neptune. Une petite correction de trajectoire et... voilà. Devant nous se dévoile Triton, le plus grand satellite naturel de Neptune. Triton n'a pas été découvert par Voyager 2, il a en réalité été découvert 17 jours seulement après la découverte de Neptune en 1846. S'il n'est pas le seul satellite de Neptune, il est de loin, mais vraiment de très loin, le plus gros, en représentant 95,5% de la masse totale en orbite autour de Neptune. Il est par ailleurs le seul à atteindre une masse suffisante pour avoir une forme sphérique. Triton est particulièrement intéressante, et cela à plus d'un titre. Si d'apparence il n'a pas le charme de Titan ou l'activité d'Io, c'est par son origine qu'il intrigue. En se penchant au-dessus de sa surface recouverte de glace d'azote, on se rend compte que Triton ressemble beaucoup à Pluton, celle qui fut un jour la 9e planète du système solaire. Ressemblant par la composition, mais aussi par sa taille, car avec un diamètre de 2700 km, Triton est à peine plus grande de 400 km par rapport à Pluton. Les choses se compliquent encore quand on regarde le mouvement de Triton en avance rapide. La Lune de Neptune tourne à l'envers autour de sa planète. Et ça, ça peut paraître un détail pour vous, mais en fait, ça veut dire beaucoup. Vous vous souvenez, lors de notre dernier voyage vers la Lune, je vous disais que Theia, l'objet qui impacta la Terre, était une protoplanète. Eh bien, il est probable que Triton se soit formé dans un endroit similaire à celui de Pluton en tant que protoplanète, mais que, contrairement à celle-ci, il se serait un peu trop approché de Neptune, jusqu'à ce que cette dernière le capture sans pour autant le détruire. Enfin, tout ça n'est peut-être qu'un sursis. Doucement mais sûrement, Triton se rapproche de Neptune, et finira dans 3,6 milliards d'années par franchir la limite de Roche et sera alors mis en pièces. L'occasion alors pour la géante bleue de peut-être gagner un nouvel anneau bien plus conséquent et peut-être de faire de l'ombre à la planète reine en la matière, Saturne. Neptune est une planète mal connue, car peu explorée. Seul Voyager 2 a pu furtivement l'approcher. Si de nouvelles observations ont pu être faites depuis grâce au télescope spatial Hubble et également grâce au télescope terrestre toujours plus puissant, c'est seulement à l'aide d'une mission d'exploration in situ que la dernière géante de glace livrera davantage de secrets. Si aucune sonde n'a été envoyée depuis 1989, ce n'est pas parce que Neptune n'est pas intéressante, mais parce qu'elle est terriblement loin, et tout comme Pluton, une mise en orbite est particulièrement complexe et surtout très coûteuse en énergie. Les choses ne sont cependant pas sans espoir, et des propositions sont actuellement sur la table. Trident est un projet de mission appartenant au programme Discovery de la NASA, c'est-à-dire le programme des missions à coût modeste. Trident est une mission de survol de Neptune et de Triton, qui a été présélectionnée avec deux autres missions. Si Trident est retenu au détriment des deux autres missions candidates, la sonde de 1300 kg partirait vers Neptune au milieu de la décennie, pour un survol de la géante en 2038. Une perspective lointaine, j'en conviens, mais qui est inévitable pour un voyage aussi loin, et qui nous laisse tout le temps de rêver et surtout d'imaginer ce qui peut bien se tramer sous la croûte glacée de Triton ou dans les profondeurs de Neptune. Et peut-être d'ici là, sa voisine non plus connue, Uranus, aura eu le droit, elle aussi, à une étude en règle, de quoi nous en mettre plein les yeux, mais aussi plein la tête.
Bougez pas, je vais répondre.
Allô, c'est ton chasseur de primes préféré, ça va?
Disons que ça peut aller, et toi?
Disons que je suis un petit peu en difficulté. Non, ce que t'es 70 millions d'années dans passé sur Terre. Un coup de main, c'est pas de refus.
Mais dans quoi est-ce que t'es encore fou?
Ça urge là.
Bon, bouge pas, j'arrive.
C'était À la recherche de la Spoutniterre, bleu et tellement plus, le 10e épisode de la capsule spatiale de Radio U. Si vous souhaitez vivre ou revivre cette aventure ou les précédentes, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutniterre, toutes nos émissions, avec en bonus quelques précisions. En attendant de nous retrouver très vite pour de nouvelles pérégrinations, gardez la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutniterre.